Madame Saint-Pierre Desrosiers et La Flamme de venir me rejoindre pour nous parler des modalités d'application des nouvelles orientations en matière d'examen éthique des projets de recherche multicentriques dans les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux. Faire une petite bio assez short and sweet, comme on dit. Madame Saint-Pierre est directrice. Madame Saint-Pierre. Oui. Est directrice à la direction de la recherche, de l'innovation et du transfert de connaissances au ministère de la Santé depuis novembre 2006. Madame Desrosiers, elle a fait des études en droit et obtenu un diplôme en enseignement de l'Université du Québec à Montréal et elle est maintenant directrice à la Direction de l'éthique et de la qualité au ministère de la Santé depuis juin 2013. Et nous avons Mme Laflamme, qui est titulaire d'un doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal et diplômée en sciences de l'administration de l'Université Laval. Je vous cède la parole en espérant que l'on a seulement une demi-heure, si on peut empiéter un petit peu sur le dîner. Est-ce que ça va être correct? Oui, OK. Merci au comité organisateur.
Si Michel dit oui, ça va. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une belle opportunité, en fait, qui nous est donnée de venir vous parler des nouvelles modalités qui concernent le mécanisme multicentrique, qui concerne en fait, l'évaluation éthique de la recherche, des projets de recherche multicentriques. Vous avez vécu la première version, en fait, les premières modalités qui ont été appliquées en 2008. Et au fond, on est dans une continuité avec ce qui vous sera présenté. Certains d'entre vous qui ont assisté à des activités d'information déjà vont peut-être retrouver certains éléments qui ont déjà été présentés, mais rapidement, on tombera dans les éléments plus concrets, en fait, de l'application avec la partie qui sera offerte par Mme Saint-Pierre. Alors, pour vous rappeler peut-être certains éléments de contexte, je vous rappellerai qu'on est dans une initiative qui réunit autour d'une même table plusieurs intervenants. En fait, c'est une initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais qui est aussi en concertation avec le FRQS et qui a mobilisé aussi depuis ma foi, les deux dernières années, les différents réseaux universitaires intégrés de santé, les RUIS. C'est une démarche aussi qui a pris appui sur des résolutions adoptées par les conseils d'administration des établissements. Donc, chaque établissement du réseau de la santé a été sollicité pour adopter une résolution allant dans le sens d'une seule évaluation par projet de recherche multicentrique. C'est une réflexion aussi qui s'est faite en tenant compte de l'encadrement normatif québécois, de l'encadrement normatif fédéral, international également. J'ajouterais qu'on a eu une préoccupation particulière parce que c'était une question souvent soulevée par le milieu, mais aussi parce que c'est une préoccupation qui s'imposait sur les enjeux d'assurance responsabilité. Donc, on a multiplié les échanges avec la direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux. On surnomme affectueusement la DARS, qui loge à la caisse. Et on a bien sûr eu aussi une préoccupation pour les enjeux de financement des comités d'éthique, sachant que plusieurs comités d'éthique tirent leur budget, ou en tout cas tirent une partie importante de leur budget à partir des essais cliniques multicentriques. Au cours de la dernière année plus particulièrement, mais j'oserais dire au cours des deux dernières années, il y a eu plusieurs échanges aussi avec le secteur privé, des échanges avec RXCD plus spécifiquement, pour partager avec eux les nouvelles orientations, pour discuter avec eux aussi de la recevabilité d'une période transitoire durant laquelle les paramètres actuels de la facturation au niveau de l'évaluation éthique pourront être maintenus. Et on a aussi multiplié les communications avec l'ensemble des parties prenantes, évidemment les RUIS et le FRQS qu'on rencontre sur une base régulière, qu'on rencontre mensuellement et à l'occasion plus fréquemment encore. Les présidents, les coordonnateurs des comités d'éthique de la recherche, les PDG des agences aussi qui ont été mobilisés dans la démarche de la dernière année, les associations d'établissements, le bureau de coordination interuniversitaire qui a été informé là, de la démarche qui était initiée par le ministère, RXCD, je l'ai dit, et bien sûr, les abonnés du site Internet de la Direction de l'éthique et de la qualité. Donc, c'est ajouté à ça aussi une démarche de consultation, une démarche de simulation, au fond, qui a permis de partager, dans les grandes lignes, en tout cas, les modalités du mécanisme. Cette simulation-là s'est déroulée durant l'été 2014, sous la responsabilité de Mme Paul Savignac. On a tenu aussi certaines rencontres ciblées, des rencontres complémentaires avec des milieux au cours des dernières semaines. Et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, en fait, se mettront en place deux groupes de travail. Un premier sur le financement des comités d'éthique de la recherche et un second qui va se pencher sur les enjeux plus, en fait, sur les clauses plus juridiques, je dirais, du formulaire de consentement. On peut penser aux clauses concernant la confidentialité, à l'indemnisation, à la responsabilité. Donc, des clauses qui souvent posent problème et l'objectif de ce groupe de travail-là sera de proposer une vision commune, une vision forte qui pourra être utilisée par les comités d'éthique dans leur discussion avec les promoteurs, voilà. Alors, pour tomber directement dans le vif du sujet, je vais céder la parole à Manon Saint-Pierre.
Alors, bonjour. Ça va bien? Je vais juste me pratiquer pour avancer, reculer.
Je peux prendre mes flèches.
Comme ça, là, OK. Ça ne marche pas, là? Non? Celle-là?
Non, comment j'ai fait?
Ouais. Ce ne sera pas long.
C'est ça va.
OK, c'est bon. Alors, je me lance. Écoutez, on vient tout juste de déposer sur le site web de la Direction d'éthique et de la qualité, il y a à peine une journée et demie, le nouveau cadre de référence sur les modalités éthiques, l'examen éthique des projets multicentriques, en fait, l'autorisation de ces projets-là, suite aux nouvelles orientations qu'on a, avec toute la démarche de réalisation que Nathalie vient de nous présenter. Vous avez le cadre de référence et vous avez également quatre schémas qui sont des schémas qui servent principalement pour les chercheurs, pour les comités d'éthique évaluateurs, pour les personnes mandatées dont je vais vous parler, pour un genre de guide d'outils pour comprendre les éléments de ce nouveau mécanisme-là. Alors, la présentation va en faire peut-être certains extraits, mais je vous invite à aller voir le document. Le champ d'application du cadre de référence, ça s'applique aux établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux. Il y a environ le tiers de nos établissements qui ont SER dans leur mur. Qu'est-ce qu'un établissement aujourd'hui, depuis le projet de loi 10? On va peut-être vous revenir un petit peu à la fin de la présentation, mais actuellement, on travaille avec la notion d'établissement telle qu'elle est dans la loi actuelle. Le champ d'application du cadre de référence s'applique aussi à un chercheur universitaire qui veut faire de la recherche dans un établissement du réseau de la santé, des services sociaux. Il ne s'applique pas aux universités, mais on a actuellement des discussions, il y a des discussions à venir avec les universités et principalement la partie de couverture d'assurance propre aux universités qui fait en sorte que éventuellement, on pourra essayer de voir comment on peut y avoir une reconnaissance entre l'évaluation éthique faite par un CER universitaire versus un CER du réseau de la santé et des services sociaux. Et la raison pour laquelle, actuellement, on ne peut pas, l'évaluation éthique ne peut pas être faite par un comité d'éthique universitaire, c'est essentiellement une question de responsabilité, d'assurance-responsabilité. Et c'est ça qu'on essaie de voir, comment on peut régler la situation. Ça écoute? OK. À compter du 1er décembre 2004, tout projet multicentrique fera l'objet d'un seul examen éthique qui sera reconnu d'emblée par tous les établissements participants. On a prévu des dispositions transitoires jusqu'au 31 mars 2016, c'est-à-dire pendant 16 mois, pour couvrir justement les enjeux de financement engendrés par les changements au sein des comités d'éthique, comme Nathalie le mentionnait un petit peu plus tôt. Donc, il y a une entente avec l'entreprise privée, les RXCD, pour avoir une période de transition. On maintient le niveau de facturation actuel qui est fait par les comités d'éthique auprès des entreprises. Donc, pour un même projet, il y a un seul CR qui va agir comme CR évaluateur. Il y a la notion de déclaration qui s'ajoute. Et ce CR-là, c'est un CR qui devra être constitué par un établissement public du réseau de la santé. Ça peut être aussi le CR central. Donc, c'est les comités qui peuvent agir comme CR évaluateur. Ce sont les comités éthiques qui sont déjà constitués par le réseau de la santé. Chaque établissement demeure responsable d'accepter le projet, que le projet se réalise dans ses murs ou ses hospices, notamment en faisant l'évaluation de convenance. Donc, ça, il n'y a pas de changement. Chaque établissement prend la décision ou non de retenir un projet. L'autorisation de mener la recherche dans l'établissement doit être donnée par le directeur général ou une personne formellement mandatée à cette fin par le conseil d'administration de l'établissement. C'est un avis juridique, une disposition de la loi, l'article 169 et 170, qui nous amène au fait que le comité d'éthique autorise l'éthicité d'un projet, mais ne peut pas engager la responsabilité de l'établissement de santé sur le go-no-go de la réalisation d'un projet dans un établissement. Ça doit être le directeur général ou une personne qui est formellement mandatée par le conseil d'administration. Donc, c'est une notion qu'on ajoute dans le nouveau mécanisme. Mais la façon dont cette personne-là va exercer son mandat, les modalités opérationnelles et organisationnelles qui vont se mettre en place dans un établissement de santé, on sait que ça peut être très souvent le directeur général qui va être la personne mandatée, mais on sait très bien que c'est pas lui qui va recevoir les demandes, les dépôts des projets. Il va y avoir quelqu'un à l'interne, un guichet, où les mêmes personnes pourront intervenir dans le processus interne, mais ultimement, la signature devra être faite par une personne mandatée ou, à la limite, le directeur général. L'examen scientifique est fait avant que le projet soit présenté au comité d'éthique ou simultanément. Le comité d'éthique, évidemment, examine les implications sur le plan éthique et des méthodes et du plan de la recherche. Il pourrait aussi faire l'examen scientifique s'il a l'expertise nécessaire et si son mandat prévoit qu'il peut faire un examen scientifique. Puisqu'il y a maintenant un seul comité évaluateur qui va faire l'évaluation du projet d'examen éthique pour plusieurs sites de réalisation, les particularités locales doivent être prises en considération. La façon que ça va être pris en considération actuellement, en tout cas avec le nouveau mécanisme, ils doivent être pris en considération par le chercheur lors du dépôt de sa demande d'examen éthique. Donc, le chercheur, il veut faire une recherche dans 5 établissements. Il doit déposer une demande qui précise dans chaque établissement des particularités, les particularités qui sont propres à ces établissements-là. Par le comité d'éthique évaluateur aussi, lors de l'examen éthique, le comité évaluateur va devoir se mettre dans la perspective qu'il évalue pour 5 sites et non pas juste pour son établissement à lui. Et par l'établissement lors de l'examen de convenance. Donc, lors de l'examen de convenance dans chacun des établissements, la question de sursollicitation ou est-ce que j'ai les ressources nécessaires serait prise en considération dans l'examen de convenance. Il y a des modalités spécifiques qui sont prévues pour le cas d'essai clinique avec l'entreprise privée où la même recherche est réalisée par un chercheur différent dans différents établissements. On essaie d'imager, de schématiser le processus général pour donner un peu gros, comment ça se présente. Il y a, dans le fond, le processus, il y a l'établissement du CR évaluateur et il y a les autres établissements participants. Donc, le nouveau projet est déposé à l'établissement du CR évaluateur. Le CR évaluateur doit prendre une décision si, oui, il a les compétences pour évaluer ce projet-là. Dans la plupart des cas, quand c'est le chercheur de l'établissement, d'emblée, il a la compétence. L'examen de convenance, l'examen scientifique et l'examen éthique se fait pratiquement en parallèle. L'examen scientifique peut être fait avant, parce qu'on peut reconnaître un examen scientifique qui est fait par un organisme subventionnaire, comme les IRSC, par exemple. En parallèle, également, dès que le CER a accepté d'évaluer le projet, les autres établissements peuvent évaluer la convenance, dès qu'on a cette information-là. Et à la toute fin, de part et d'autre, autant l'établissement du CER évaluateur et les autres établissements ont à prendre la décision d'autoriser ou non le projet par la personne mandatée. Et lorsqu'il y a un comité d'éthique dans l'établissement qui n'a pas eu à évaluer le projet, ce comité-là prend en considération les informations qui sont transmises à ces établissements-là dans le cadre du processus et également un rôle au niveau du suivi actif du projet dans leur établissement. Les nouvelles modalités pour le chercheur, en fait, la première chose qu'il doit voir, quand vous voyez le schéma, la première chose qu'il doit décider, c'est à quel comité d'éthique il présente sa demande. Bien, dans la majorité des cas, ça va être le comité d'éthique de son établissement. Mais on met une condition, c'est qu'il faut que, idéalement, il faut que l'établissement soit aussi un site où les participants sont recrutés. Donc, c'est ça la priorité. S'il prévoit pas recruter de patients dans son établissement, il devrait s'adresser à un autre établissement où, là, il recrute des patients. C'est sûr que le comité central peut aussi venir, si aucun établissement là, de CER où il recrute des patients, le CER central peut agir comme CER évaluateur. Fait que c'est le principe. Je n'irai pas plus loin, je pense que c'est bien expliqué. Les banques de données, les banques de recherche, en fait, puis je pense que ce qui est introduit ici, c'est suite d'ailleurs à la recommandation du réseau des organisateurs aujourd'hui. Dans le cas des banques de données, il y a des particularités. Si la banque a été, il y a généralement un comité d'éthique qui a été constitué pour gérer la banque de données. Alors, c'est ce comité-là qui va devoir évaluer le projet. Et s'il y en a plusieurs comités d'éthique qui ont été désignés pour évaluer, pour gérer la banque, ce sera là où il y aura le plus grand nombre de données ou d'échantillons à utiliser, qui sera le CER évaluateur dans ce cas-là. Je reviens un petit peu sur la démarche pour le chercheur. En fait, on fait juste imaginer, le chercheur présente son projet à un comité. Ce schéma-là vient surtout à faire ressortir que maintenant, il y a une déclaration d'un comité d'éthique qui dit « Oui, moi, j'accepte d'évaluer le projet pour ce chercheur-là. » Et à ce moment-là, tout peut déclencher à partir de cette étape-là. Donc, le CER décide s'il agit comme CER évaluateur. Et à ce moment-là, il donne aussi une date pour examiner le projet en réunion. Ce qu'on a prévu également, ce qui n'avait pas été identifié à l'origine, c'est que si le chercheur est dans un établissement et il dépose son projet à ce CER-là, d'emblée, le CER doit accepter. Donc, je veux dire, il ne peut pas refuser que le chercheur qui est dans son établissement doive magasiner pour ça. Fait que d'emblée, il y a une acceptation du CER de l'établissement si c'est un site participant. Il pourrait y avoir des occasions et le CER refuse d'agir s'il n'a pas la compétence, notamment pour agir. Donc, dès que le chercheur a cette déclaration-là, il peut déjà enclencher le processus et aller demander aux autres établissements de faire l'évaluation de convenance. Peut-être une précision concernant la personne mandatée. On a parlé un petit peu plus. C'est une personne qui doit être un employé de l'établissement officiellement, mais je veux juste quand même préciser que le personnel qui entoure, qui appuie la personne mandatée, n'a pas à être un employé de l'établissement. Ça peut être des gens qui sont engagés à contrôle, des choses comme ça. Je pense qu'il y a eu une méprise sur cette obligation-là. La personne mandatée doit être un employé, mais les gens qui travaillent autour n'ont pas à être des employés officiellement. Qu'est-ce que je prends? Je ne passerai pas à travers les diapos. Ça, vous allez les retrouver dans le cadre de référence et dans les schémas qui ont été déposés sur le site web de la Direction de l'éthique et de la qualité. Déclaration. Ça reprend un petit peu les étapes. Donc, la déclaration, puis au moment où il y a la déclaration, tout peut s'enclencher. Et il y a l'examen de convenance qui est fait, et une fois que c'est approuvé, par la suite, il y a le suivi continu des projets qui sont enclenchés également. Pour les essais cliniques avec un chercheur, comme je disais, des fois, il y a plusieurs chercheurs qui font la recherche dans plusieurs établissements. Ce qui distingue le cas des chercheurs réguliers, en fait, pas réguliers, mais dans ce cas-là, c'est que la déclaration peut, à ce moment-là, être déposée dans tous les établissements où il y a un chercheur qui veut commencer une recherche. Et cette information-là, elle est transmise également au promoteur. Cette information-là est transmise également au promoteur qui peut dire au chercheur, bien, allez-y, j'ai l'autorisation maintenant. Il y a quelqu'un qui va évaluer mon projet de recherche. Pendant le déroulement de l'essai clinique, les notifications pendant le déroulement de la recherche, le chercheur qui a demandé l'examen éthique, c'est lui qui va faire les notifications de suivi et le CR évaluateur va faire la décision relative au suivi. Et les chercheurs dans chacun des établissements, à ce moment-là, vont déposer leurs notifications. Les responsabilités du CR évaluateur de faire l'examen, je pense qu'on en a parlé, c'est l'acceptabilité éthique du projet. Il exerce son mandat sous la responsabilité d'un conseil d'administration, puis il rend compte au conseil d'administration de ses activités et au ministère de la Santé. Il doit avoir la compétence pour agir comme CR évaluateur. Il doit connaître, parmi ses membres, il doit y avoir des gens qui connaissent la population visée, la méthode de recherche, la discipline et donc compétents pour évaluer le projet. Et il doit se conformer à la satisfaction du ministère aux exigences qu'on a posées. La responsabilité du CR évaluateur, en fait, on le met de façon plus graphique à ce niveau-ci. Il s'assure que le projet fait l'objet d'un examen scientifique. C'est lui qui, dans le fond, qui s'assure que cet examen-là est fait. Il fait l'évaluation et, en fait, il déclare au chercheur qu'il accepte d'agir comme CR évaluateur. Et il fait l'examen éthique et poursuit les échanges lors des échanges avec le chercheur pour jusqu'à l'autorisation de l'examen éthique. Et par la suite, produit tous les documents qui sont nécessaires pour chaque type de projet qui sont en cause, notamment des documents qui sont nécessaires dans le cadre de projets de recherche au niveau de Santé Canada. CR conjoint et entente interétablissement, on a une particularité on respecte les ententes qui s'appliquent encore, sauf si elles empêchent de reconnaître l'examen éthique par un CR qui n'est pas nommé dans l'entente. Mais si c'est juste des comités d'éthique, des établissements qui sont partis à l'entente, l'entente continue à demeurer. Donc, ça continue. Les nouvelles modalités pour l'établissement public de santé, c'est principalement concernant le rôle de la personne mandatée. Comme il y a chaque projet doit évaluer la convenance institutionnelle d'un projet, chaque établissement doit faire ça. Il a à désigner une personne mandatée pour ce faire. C'est le directeur général ou une personne parmi son personnel. Cette personne ne doit pas être en conflit d'intérêts. Puis j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Les modalités peuvent être déterminées par l'établissement, comment ça va être organisé. Ce qu'il faut peut-être qui est important à retenir sur la personne mandatée, il doit en fait, la personne mandatée ou l'établissement qui va accueillir une recherche en ses murs, il doit veiller à ce que ce soit connu ou est-ce que les chercheurs déposent un projet de recherche. Il s'assure qu'on demande l'examen de convenance du projet, d'informer aussi les documents manquants puis de fournir les déclarations requises pour les chercheurs qui seraient, par exemple, un chercheur universitaire. Un petit diagramme qui démontre le suivi continu des projets. Dans l'établissement du CR évaluateur, les notifications applicables dans les établissements où se déroule le projet sont déposées à l'établissement du comité évaluateur. C'est examiné par le comité d'éthique évaluateur et la décision suivie est prise par ce comité-là. Les notifications spécifiques aux établissements dans chaque site participant sont aussi déposées au comité d'éthique évaluateur et également le dépôt du rapport annuel. Et la décision retourne aux établissements participants auprès de la personne mandatée, autant pour l'établissement du comité évaluateur que pour les autres établissements participants. Et il y a des recommandations du CER de l'établissement suite à l'examen du rapport final. Donc, le CER de l'établissement, s'il y en a un, peut faire des recommandations sur le rapport annuel. Les moyens passifs, bien, je pense que vous les connaissez. En fait, on fait juste mentionner que ce sont ceux qui sont faits à partir de notifications. On revient sur le rôle du CR évaluateur. Les moyens actifs de suivi continu nécessitent le concours généralement d'une instance indépendante, du chercheur et du promoteur, mais c'est le comité d'éthique locale peut suggérer des mesures de suivi actif suite à l'examen des projets. Le CR qui n'agit pas comme CR évaluateur, il reçoit de la personne mandatée pour autoriser, il reçoit tous les documents, en fait, de la personne mandatée, les documents concernant la recherche, et une copie de toutes les décisions du comité d'éthique évaluateur. Il examine le rapport annuel et fait des recommandations sur les mesures de suivi actif qui peuvent être proposées à l'établissement. Une période de transition, de rodage, on maintient les paramètres de facturation actuels jusqu'au 31 mars 2016, comme je mentionnais au début. Il y a des délais qui sont prescrits dans le cadre de référence. Ces délais-là vont être exigés, en fait, à compter du 1er avril 2015 uniquement. Et il y a une période de rodage et nouvelles modalités d'ici le 31 mars 2015 à partir de projets types qui vont être recommandés par le milieu. Alors, on va inviter les gens à nous recommander des projets pour faire la période de rodage, en fait, ajuster le cadre de référence si jamais il y a des aspects qui sont problématiques au niveau de la mise en œuvre. Le soutien et l'assistance aussi qui va être offert par la Direction d'éthique et de la qualité, par téléphone, par courriel, par Internet. Un registre des appels aussi, des demandes qui vont être consignées. Ces demandes-là vont être analysées par un comité de vigie. Et la réponse qui sera faite retournera à tous et pourra engager, dans le fond, la mise à jour du cadre de référence. Ça termine la présentation. Je voulais inviter Nathalie juste à parler. On a parlé de la notion d'établissement. Je sais que le projet de loi 10 peut susciter beaucoup d'interrogations. Alors, un petit mot là-dessus.
C'est trop là. Non, ça va? Au fond, c'est ça, c'est que sur le chemin faisant, il y a des gens qui nous interpellaient sur, justement, les nouvelles orientations, les nouvelles modalités multicentriques s'appuyaient sur le concept de l'établissement. Alors, qu'est-ce qui arrive avec le projet de loi 10 qui redéfinit complètement les contours d'un établissement? Donc, je pense qu'à très court terme, ce qu'on peut se dire, c'est que le projet de loi 10 est encore sous étude. Donc, d'ici à son adoption, il y a encore des choses qui peuvent changer. Mais par ailleurs, dans l'éventualité d'une adoption rapide du projet de loi 10, il est évident que au 1er avril, les établissements vont être redéfinis. Mais d'ici à ce que ça ait des impacts très, très importants du côté de l'éthique, on peut quand même imaginer une période de transition importante parce que les premiers dossiers que traiteront nos nouveaux établissements vont davantage porter sur cette espèce d'intégration-là générale avec toutes sortes de considérations financières, considérations de gouvernance également. Donc, il ne devrait pas y avoir un impact rapide, en tout cas, c'est ce qu'on pense, là, sur le mode d'organisation actuel des comités d'éthique dans nos établissements.
Merci beaucoup.